This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai toujours été une bille totale en sciences, un vrai désespoir pour mes professeurs. Mais paradoxalement, j'ai également toujours été un lecteur avide de science-fiction, ce qui fait que, comme pas mal de gens de ma génération sans doute, j'ai une vision totalement fantasmée de ce qui peut bien se tramer sous les néons des laboratoires. Aussi, lorsqu'on apprend dans la presse qu'un chercheur chinois affirme avoir modifié génétiquement deux bébés pour les rendre résistants au VIH, j'avoue qu'un léger frisson d'angoisse m'a saisi avant que je ne me reprenne et décide à affronter mes peurs les plus enfouies en allant voir directement ce que bricolent les scientifiques avec notre ADN. Où en est la recherche sur les gènes en France? Jusqu'où compte-t-elle nous emmener? Et surtout, comment concilie-t-on exploration scientifique et contraintes éthiques? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Ici, vous êtes dans les locaux d'ISTEM, l'Institut des cellules souches d'Evry. Et ces locaux sont ceux d'un bâtiment qu'on partage avec d'autres équipes travaillant sur les cellules souches.
Bonjour.
Et pour mieux comprendre tout ça, je vous emmène au Génopôle à Évry, en région parisienne. Le Génopôle, c'est ce qu'on appelle un biocluster, un ensemble de labos et d'entreprises dédiés à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et l'environnement. On va aller rencontrer Marc Péchanski, il est biologiste et neurophysiologiste. Il est également le directeur scientifique de l'Institut des cellules souches ISTEM. Ce sera notre guide dans ce grand labyrinthe de la recherche génétique. Et histoire de démarrer en fanfare, je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'était l'outil CRISPR. Ça s'écrit C-R-I-S-P-R. Ça signifie, attention, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, soit les courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées. Alors je sais, c'est de l'hébreu pour moi aussi. Mais c'est ce qui a permis aux scientifiques chinois que j'évoquais plus tôt de modifier le génome des bébés, et c'est une vraie révolution dans le domaine de l'ADN.
C'est, pour dire simplement, un système de ciseaux pour l'ADN, donc pour le programme génétique, avec la possibilité de... d'un copier-coller. Donc, il y a des outils dans le CRISPR, il y a une grosse protéine, et puis il y a un guide pour cette protéine, et ce guide, c'est un petit bout d'acide ribonucléique qui va se coller très très précisément sur une région de l'ADN, et qui va permettre à la protéine de couper et éventuellement d'insérer une région nouvelle d'ADN. Donc c'est un système qui a été trouvé dans des bactéries, qui est extrêmement puissant parce que très très précis dans sa coupure et très facile en plus à reconstruire. Alors les bactéries, elles l'ont développé pour éliminer les virus. lorsqu'elles sont infectées par des virus, un des systèmes de défense, c'est d'aller reconnaître le bout de l'acide nucléique que le virus a essayé d'insérer dans leur génome, et puis de couper à cet endroit-là, de façon à ce qu'ils ne puissent pas se reproduire. Eh bien, une fois que les scientifiques, donc en recherche très fondamentale, ont trouvé ce système, ils ont pensé à l'exploiter pour faire ça dans des cellules de mammifères. Et puis, ça a marché. C'est des choses qu'on fait, je dirais, presque quotidiennement. En tout cas, il y a beaucoup de laboratoires qui essayent de le faire. Mais bon, la plupart y arrivent. Maintenant, pour nous, c'est du quotidien. Ça nous permet de, par exemple, pour nous qui travaillons sur les maladies génétiques, de modifier les cellules sur lesquelles nous travaillons, qui sont porteuses d'une mutation, de telle façon qu'elles ne la portent plus.
Pour l'instant, on en est à quel stade de l'utilisation de CRISPR dans la recherche française ? C'est un stade purement expérimental, j'imagine, il n'y a pas d'application encore concrète de ce qu'on en fait, ou est-ce que ça a commencé déjà ?
Alors ça dépend ce qu'on appelle une utilisation concrète. Si c'est une utilisation en thérapie, c'est clair que non. Aujourd'hui, dans nos équipes, on ne considère pas globalement ces techniques comme assez fiables pour pouvoir passer chez l'homme avec un degré de sécurité suffisant. C'est des choses sur lesquelles, évidemment, il y a beaucoup de travail qui s'opère. Et puis, après, ça va dépendre aussi de ce qu'on veut en faire. S'il s'agit d'aller tuer des cellules cancéreuses, par exemple, on ne va pas avoir le même degré de sécurité que celui qu'on demandera à corriger des cellules musculaires chez les myopathes. Ça va être ensuite une évaluation relative bénéfice-risque et aussi en fonction de la tâche. Mais globalement, les systèmes CRISPR, ce sont des systèmes qui nécessitent encore une évaluation, et en particulier pour une question qui se pose depuis le début, pour laquelle on a des réponses qui sont variées, du coup contradictoires, c'est: est-ce qu'il y a, lorsqu'on utilise un système CRISPR qui devrait être extrêmement précis dans une région de l'ADN, est-ce qu'il y a un risque de coupure ailleurs, ce qu'on appelle des off-targets. La question jusqu'à présent se pose finalement plus en combien d'off-target on peut voir que est-ce qu'il y a des off-target. Alors, on sait que la technique peut être précise, donc que le nombre d'off-target va être limité, mais en revanche, personne ne peut mettre sa main à couper que ça sera nul.
Donc pour l'instant, selon vous, on est encore loin du fantasme qu'on a pu voir naître autour de cette fameuse affaire de bébé chinois, de voir demain l'ADN des humains directement corrigé via ce genre de système. Peut-être pas celui-là précisément, mais via ce genre de système.
Alors, c'est pas tout à fait ça non plus. C'est-à-dire que techniquement, ce qu'a fait le fou là, en Chine... c'est à la portée de presque n'importe qui dans les labos. C'est pas le geste, il a rien fait de spécial, ce gars. Ce qu'il a fait, en revanche, c'est enfreindre une règle qui est absolue dans le transfert de résultats expérimentaux à l'homme, c'est la règle de l'évaluation de la sécurité. Et aujourd'hui, il a franchi la ligne rouge à plusieurs endroits, parce que il l'a franchi pour les bébés en question, dans la mesure où nous ne savons pas les off-target qui existent dans leur génome. Nous ne savons pas ce que veut dire la modification du génome tel qu'il l'a réalisé au long cours. Bref, on a des interrogations qui n'ont jamais été testées chez l'animal suffisamment. Donc, sur lesquels il ne peut pas prétendre quelque part, il n'a pas même les outils de mesure pour pouvoir le faire. Il a dit dans ses topos que... Il avait fait tout un tas de tests et tout, mais c'est les outils de mesure qui ne sont pas adaptés, donc personne ne les a aujourd'hui. La deuxième ligne rouge qu'il a franchie, ça a été de modifier les cellules germinales, et ça, c'est une ligne rouge absolue.
C'est quoi les cellules germinales ?
Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que quand on modifie un organisme au stade de l'œuf, on modifie toutes les cellules qui vont naître de cet œuf. Donc, on va modifier les cellules de la peau, les cellules du muscle, les cellules nerveuses, etc. Et puis, on va modifier ces gamètes. Or, quand on modifie le programme génétique qui se trouve dans les spermatozoïdes ou dans les ovules, bon, là, c'est les ovules chez les deux bébés, on va modifier les générations d'après. Et ça, c'est quelque chose qui a été considéré comme une ligne rouge absolue, dans la mesure où on ne sait absolument pas ce que ça va vouloir dire pour l'espèce humaine en général. Bon, en dehors du fait que ces pauvres enfants vont être scrutés, observés, ligotés, etc., pendant toute leur vie. Donc c'est vraiment de l'expérimentation humaine, c'est Mengele, il n'y a rien de plus, il a voulu faire ça pour apparaître dans les journaux. Il est apparu dans les journaux, heureusement, avec tout l'opprobre l'ensemble de la communauté. Et puis là, il paraît qu'il a disparu, pas forcément bon signe en Chine. Mais clairement, il a franchi ces lignes rouges-là. Il en a franchi d'autres, il n'a pas soumis ces programmes à l'évaluation de comités indépendants qui existent partout, en Chine comme ailleurs, pour vérifier justement qu'on respecte les règles. Bon, on comprend pourquoi il ne l'a pas fait, mais en même temps, c'est une ligne rouge. Et pour ça aussi, je pèse mes mots, c'est un criminel. C'est-à-dire que en dehors du fait... Et ça retombe sur l'ensemble de la communauté scientifique, et c'est ce qui fait que les scientifiques sont tellement hargneux, comme moi, contre lui. Il a fait quelque chose qui décrédibilise l'ensemble de la communauté, puisque nous vivons sur cette confiance que la société nous accorde. Lorsqu'on va sur des terrains inconnus sur lesquels on demande à ce qu'il n'y ait pas de balises, puisque par définition, on ne peut pas les mettre, donc on nous laisse aller sur ces terrains inconnus, on le fait en gardant la confiance de la société, parce que justement, on s'est mis ces lignes rouges et que l'ensemble de la société sait qu'on va les respecter, que la communauté, globalement, va les faire respecter. Et là, tout d'un coup, il y a un dingue. Bon, il n'y a pas que dans la communauté scientifique qu'il y a des dingues, mais le fait est que lui, il a poussé le bouchon très loin, quoi.
Est-ce que, justement, c'est ce genre de personnage, ce genre d'expérimentation criminelle, vous le disiez, ne met pas en danger quasiment toute la recherche scientifique ? Je ne dis pas celle-là en particulier, mais ce genre d'histoire, justement du fait de cette confiance qui... potentiellement, à force d'être bafoué par des criminels, peut finalement s'arrêter. Peut-être que ça peut mettre un coup d'arrêt à une recherche qui est pourtant florissante et par ailleurs saine.
Absolument. La recherche scientifique vit sur un contrat qui est un contrat qui n'a jamais été signé réellement avec
un contrat tacite,
que ce soit, mais qui peut être explicité par tout le monde entre... les scientifiques et la société. Ce contrat, il donne la possibilité aux scientifiques d'aller parfois même en franchissant les frontières de la loi de leur pays, sur des terrains dont ils peuvent ramener de la connaissance sur la base de leurs compétences et de leur démonstration que ça vaut le coup d'aller explorer quelque chose. Bon, et on les paye pour ça. Et de l'autre côté, évidemment, ce contrat impose aux scientifiques le respect d'un certain nombre de règles qui, en gros, empêchent toute possibilité de transfert des résultats qu'ils rapportent de leurs explorations à l'homme sans contrôle, sans décision de la société au travers d'un certain nombre de ces instances. Bien. Et ça se traduit par, pour la une grande partie des scientifiques, en tout cas des biologistes, mais même au-delà, par le fait que nous avons des droits dans nos laboratoires que personne d'autre n'a et que nous-mêmes n'avons pas lorsqu'on passe sur le trottoir. On a le droit, dans certains laboratoires, de travailler sur des produits radioactifs. Bon, il est clair que si on sort avec ça dans la rue, on va tout droit à la casse-prison, et puis c'est normal. Mais dans nos laboratoires, parce qu'on a appris à s'en servir, parce qu'on respecte un certain nombre de règles, parce qu'on est contrôlé avant et après, qu'on explique pourquoi on le fait, ben on nous donne ce droit. De la même façon que, moi j'ai commencé à travailler, il y a longtemps, je travaillais sur, dans un laboratoire dans lequel on explorait la douleur. Bon, et pour jouer sur les circuits qui de la douleur, on avait des produits comme de la morphine, comme du LSD, comme un certain nombre de choses, du fentanyl et tout, qui évidemment étaient interdits complètement. Et là, c'était pareil. Si je franchissais la porte du laboratoire avec ça dans la poche, je tombais dans le droit général. Mais dans le labo, en revanche, nous avions le droit de l'utiliser. Et on peut citer comme ça tout un tas de choses. C'est ça, le contrat. Le contrat, c'est on nous donne la possibilité d'aller sur les terrains inconnus parce que l'ensemble de la société veut savoir ce qui s'y trouve et veut connaître tout ce qui peut être utilisé dans ces domaines encore inconnus. On est chargé d'y aller et en échange, nous devons respecter le fait que dès qu'il y a la possibilité d'une atteinte de l'homme, de son environnement, de la planète et tout, on doit s'arrêter parce que ça n'est plus de notre domaine scientifique. Nous devons nous contenter d'apporter des connaissances et puis ensuite de participer, comme tout le monde, aux décisions sociales.
C'est toujours étonnant de voir cette espèce de dichotomie entre l'espoir formidable justement que génère la science, notamment dans le domaine de la génétique, et la crainte en même temps qu'elle peut susciter sur le fait d'aller peut-être trop loin dans la modification finalement de ce qui reste la nature, entre de très larges guillemets, c'est-à-dire l'être humain dans son acceptation globale.
Alors, l'être humain, on ne l'a pas modifié de cette façon-là. On a corrigé de temps en temps, heureusement, des maladies très graves. En ce qui concerne les autres espèces vivantes sur cette planète, ça fait des très, très, très longtemps que l'homme les modifie. Alors, il ne les modifie pas avec des vecteurs viraux pour introduire des gènes, mais il les modifie parce qu'il les croise, il les sélectionne, il les élimine, etc. Donc, il a changé complètement les espèces végétales, les espèces animales, enfin, tout ce qu'on a autour de nous. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un jeune qui était venu assister à une de mes conférences et qui était vegan. Bon. Et qui m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on ramène les vaches à l'état sauvage. » Je lui ai dit « Parce que les vaches à l'état sauvage, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Les vaches, c'est une création de l'homme. On peut éventuellement rêver que ça redevienne des aurochs, mais on a toutes les chances de les tuer avant. Donc, c'est là la frontière entre l'humanisation de la planète qui est une réalité et puis le fantasme qui serait qu'aujourd'hui, parce qu'on a d'autres outils, on pourrait éventuellement modifier. C'est fait, l'humanisation. Et on peut effectivement penser qu'avec les outils qu'on a, on peut aller un petit peu plus loin ou on peut aller un petit peu plus vite, surtout. Oui, ça, un petit peu plus vite, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on change fondamentalement la relation entre nous et le reste de la planète. À la rigueur, ça peut vouloir dire qu'on a plus de moyens de se contrôler nous-mêmes. C'est-à-dire de faire en sorte d'éviter, parce que d'éviter les catastrophes. À chaque fois, le bouquin d'Harari sur Sapiens était intéressant de ce point de vue-là. À chaque fois que les hommes, les homo sapiens, ont débarqué dans une île, En quelques dizaines d'années, tous les animaux qui faisaient plus de 2 mètres de haut ont disparu. Bon, c'était pas du tout de la science ni de la thérapie génique. C'était juste qu'ils bouffaient, quoi.
En tant que chercheur, comment est-ce qu'on avance dans son travail avec en tête tous ces questionnements éthiques ? Quelle part ça prend dans la vie d'un chercheur ?
Alors, il y a une histoire qui est fameuse pour montrer les limites de l'intervention des scientifiques dans ce genre de domaine. C'est ce qu'on appelle la réunion d'Assilomar. Assilomar, c'est une réunion qui a eu lieu au milieu des années 70, donc sur une plage d'ailleurs qui s'appelle Assilomar, qui est à 150 km de San Francisco, je me souviens bien, qui a réuni les tout premiers biologistes moléculaires, c'est-à-dire les tout premiers chercheurs qui savaient qu'on était capable maintenant, qu'on allait être capable encore plus, mais qu'on était déjà capable de manipuler l'ADN et donc de modifier les gènes et donc éventuellement de modifier l'être humain. Ils ont discuté sans discontinuer pendant 3 jours. Ça a été enregistré, il y a des tas de déclarations là-dedans, entre scientifiques. Bon. Et ils ont fini par conclure à un moratoire. Il faut qu'on arrête de travailler parce que c'est juste pas possible. La suite a prouvé que personne n'avait arrêté, c'était pas arrêtable parce que ils s'étaient pris, eux, pour les décideurs sur la vie de la société. Et à partir du moment où on parle de la vie de la société, on n'est pas les décideurs, nous les scientifiques. On fait partie de cette société, on est décideurs au même titre que n'importe qui dans cette société. Là où nous différons, c'est que, on est lancé sur des terrains sur lesquels les autres n'ont pas le droit d'aller. Donc, par définition, on voit des choses, ou on entrevoit des choses avant les autres. Mais notre rôle, c'est de les montrer. C'est pas de les cacher. Et de les montrer de façon à ce que tout le monde puisse prendre les décisions qu'il faut.
Évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer l'immensité des questions que soulèvent les avancées scientifiques en termes de génétique et on aura très certainement l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Merci à Marc Péchanski pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.